Qu'est-ce qui différencie la philosophie de la théologie? Ces deux disciplines ne diffèrent pas par leur objet, puisque la théologie, contrairement à ce que donne à penser l'étymologie, ne s'intéresse pas seulement au mystère de Dieu, mais à des réalités profanes, tels les problèmes qu'on se pose dans le domaine de la santé, du mariage ou des rapports sociaux, tandis que la philosophie s'intéresse elle aussi à des réalités éminemment mystérieuses, telles l'existence de Dieu ou l'existence de l'âme. Mais philosophie et théologie diffèrent par l'angle sous lequel elles abordent leur objet. En philosophie, on raisonne à partir de ce que l'expérience nous montre, même si cette réflexion nous amène à affirmer l'existence de réalités invisibles, métaphysiques, c'est-à-dire au-delà du domaine sensible. Il ne manque pas de philosophes qui affirment l'existence de Dieu ou l'existence de l'âme. En théologie, au contraire, on s'intéresse à un certain nombre de vérités révélées par Dieu à un certain moment de l'histoire. Et on y croit, même si elles nous apparaissent extrêmement mystérieuses, du fait qu'on fait confiance à Dieu, qui nous les a révélées. Il y a l'autorité de l'Église, voulue par le Christ, pour nous guider dans l'interprétation des passages difficiles de l'Écriture. Mais ces mystères auxquels l'Église nous demande de croire, les théologiens essayent d'en obtenir une certaine intelligence, selon l'expression du Concile Vatican I, en mettant ces vérités en relation avec d'autres aspects du mystère chrétien. En théologie, on ne déduit pas les vérités les unes des autres, on ne les démontre pas, on ne les déduit pas comme les chimistes arrivent à déduire les propriétés d'un corps à partir de sa formule moléculaire, mais en éclairant les mystères les uns par les autres, on s'aperçoit que Dieu a de la suite dans les idées, et l'on se met à s'émerveiller de sa logique divine. Autrement dit, on commence par croire à un mystère, parce que l'Église nous demande de prendre à la lettre telle parole de la Bible, mais ensuite, en comparant les mystères les uns avec les autres, on est moins étonné que Dieu ait voulu que les choses se passent ainsi. Prenons un exemple. Dans un premier temps, il nous paraîtrait mystérieux que Jésus ait pu naître d'une vierge. Il nous semble même qu'il aurait été merveilleux qu'il eût été conçu à la suite d'un rapport sexuel entre son père et sa mère. Dieu nous aurait ainsi montré qu'une étreinte sexuelle peut être vécue dans une très grande chasteté. Mais dans un deuxième temps, en y réfléchissant, nous pouvons deviner la raison qui a poussé le Seigneur à faire les choses autrement. En venant sur terre, le Verbe avait déjà un Père, dont il est engendré de toute éternité. Il était donc normal qu'il n'ait pas de Père charnel. S'il en avait eu, il aurait été conçu comme nous, d'un Père et d'une Mère, et l'enfant aurait été une personne humaine, que la personne du Verbe serait venue aussitôt habiter. Or, à aucun moment Jésus n'a été une personne humaine. Dès le premier moment de sa conception virginale, il était le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu, préexistant depuis toujours à ses parents. C'est ce que le Concile d'Éphèse a bien mis en valeur. Bref, on éclaire le mystère de la conception virginale de Jésus par un mystère encore plus grand, celui de sa préexistence éternelle dans le sein de Dieu. On ne supprime donc pas le mystère, on ne le démontre pas, mais on comprend que si Dieu décidait d'envoyer son Fils parmi nous, il pouvait difficilement faire autrement. La liturgie orientale célèbre Marie en lui chantant « Tu as enfanté le Fils sans Père, ce Fils qu'avant les siècles le Père avait enfanté sans mère. » D'autre part, on s'étonne moins du merveilleux changement par lequel le Christ se rend présent sur nos autels quand on se souvient de la façon dont son corps est venu au monde. Pourquoi cherches-tu ici l'ordre de la nature dans le corps du Christ? Remarque saint Ambroise à propos de l'Eucharistie. alors que le Seigneur Jésus lui-même a été enfanté par une vierge en dehors du cours de la nature. Autrement dit, tout au début de la vie du Christ à Nazareth, un saint vierge se remplit soudain d'un corps vivant. Après sa mort à Jérusalem, une tombe se vide en un instant du corps qu'elle renfermait. Et le cadavre devient le corps glorieux du Seigneur, source de vie pour tous les hommes. Deux mystères, là encore, qui s'éclairent merveilleusement. Il ne faut donc pas être surdoué pour faire de la théologie. Il suffit de prier l'Esprit Saint, de nous accorder le don d'intelligence pour ruminer l'Écriture et la comprendre, et le don de sagesse pour en savourer les mystères.